point de mire.
Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Grégoire Valin, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous à l'Institut de France. Vous êtes instituteur depuis très peu de temps. Vous allez pouvoir nous en parler plus en détail. Aujourd'hui, vous êtes ici puisque vous recevez un des prix professionnels de la main à la pâte, qui est une fondation de l'Académie des sciences qui existe depuis 1996. Alors, sur quoi portait votre mémoire qui aujourd'hui reçoit un prix la main à la pâte ?
Eh bien, lors de ce mémoire, je me suis interrogé sur la démarche qu'on peut mettre en place dans les écoles concernant l'astronomie. Voilà, donc ma préoccupation était un petit peu de savoir quel pouvait être l'apport et puis l'intérêt de l'astronomie en primaire, puisque c'est une science qui est un petit peu particulière. Et donc, j'ai pu étudier sur une classe de cours moyen toute une séquence sur les phases de la Lune.
Alors, comment vous est venu à l'idée ce sujet ? Parce que vous avez une formation scientifique, je suppose ?
Oui, tout à fait. Tout d'abord, une formation scientifique et puis ensuite une position en tant qu'animateur dans un observatoire astronomique qui m'a laissé un petit peu ce goût-là de faire partager cette science même aux plus jeunes. Et je me suis aperçu que c'était un sujet qui les passionnait.
Alors, quand on était dans votre cours, en quoi consistaient en fait les différents modules que vous avez présentés à vos élèves ?
Alors, j'essayais de mettre en place une démarche la plus complète possible. Alors, en astronomie, évidemment, il faut commencer par des observations. Donc, j'avais fait tout un plan d'observation avant véritablement de prendre la classe en main, c'est-à-dire le mois précédent. Les élèves avaient observé la Lune, si possible tous les soirs pour les plus assidus. Et puis ensuite, en arrivant dans la classe, j'ai commencé ma démarche en faisant un bilan de ce qu'ils avaient pu observer. Et puis ensuite, nous sommes évidemment posé la question, pourquoi la Lune présente étaient-elles différents aspects au cours de son cycle. Je me suis aperçu que les élèves n'avaient pas véritablement d'idées préconçues. Et en fait, la démarche que j'ai pu mettre en place a été une démarche tout d'abord de modélisation, c'est-à-dire que faire rentrer la Lune dans une classe, c'est un petit peu difficile. Par contre, nous avons tout de suite essayé de trouver des analogies avec des... Nous, on a utilisé des boules de polystyrène, des spots, des choses comme ça pour simuler le système. Donc on a eu toute une phase de modélisation, ensuite on a expérimenté sur ces petites maquettes, et puis même on a utilisé une forme d'activité un peu spéciale, c'est-à-dire qu'on a fait une simulation par jeu de rôle, c'est-à-dire que les enfants se sont eux-mêmes mis à la place des astres, de la Terre, de la Lune et du Soleil, et ce qui leur a permis de bien comprendre le système, puisque certains, les maquettes n'étaient pas assez explicites pour eux, mais là en se mettant à la place de la Lune, ils ont tout de suite saisi l'intérêt.
Vous êtes mis en professeur de PS, vous leur avez fait faire une chorégraphie en quelque sorte.
Voilà, tout à fait. Ils ont quand même pas perdu l'idée qu'on travaillait quand même dans un but précis, mais les séances étaient peut-être plus ludiques que celles qu'on voit souvent en sciences dans les écoles.
Vous disiez qu'effectivement, à la base, vous travaillez sur les observations des élèves. Est-ce que vous avez eu des observations, on va dire, des remarques un peu rigolotes de la part de vos élèves ?
Oui, alors les enfants ont observé la Lune chez eux. Bon, là, c'était en plus l'hiver, donc la Lune n'était pas forcément très visible. Et donc, certains se sont un petit peu... comment dire, aventuré à faire des petits pronostics, c'est-à-dire que en se servant un petit peu de leurs observations et puis des calendriers qu'ils avaient trouvés à gauche et à droite, ils ont essayé d'imaginer l'allure de la Lune les jours où ils n'avaient pas pu l'observer. Et on retrouve parfois des choses un petit peu folkloriques, sachant que beaucoup d'enfants, même en cours moyen, c'est-à-dire à 9-10 ans, sont persuadés que la Lune a différents aspects parce qu'elle est plus ou moins cachée par des nuages. Ça, c'est l'hypothèse qui est la plus souvent avancée par les enfants. Et donc, c'est grâce à la manipulation qu'on a pu se rendre compte. Les élèves ont vraiment testé leur hypothèse. Ils ont essayé de voir si cette hypothèse tenait la route ou pas. On a fait la simulation et ils ont bien été obligés de reconnaître, même si parfois c'est un peu difficile, que les nuages, la présence de nuages devant la Lune ne suffit pas à expliquer les phases de la Lune.
Alors aujourd'hui, vous êtes toujours instituteur, mais avec des classes, il me semble, CP, CE1. Est-ce que vous pouvez parler de la même chose avec eux ?
Alors on peut parler de la même chose, de l'astronomie, mais par contre la manière, la manipulation va être différente, puisque ce travail que j'ai pu mener demande quand même un certain recul et toute une série de compétences que peuvent avoir des enfants de 9, 10, 11 ans. mais qui ne sont pas possibles chez des CPCE1. Donc on peut parler aussi d'astronomie. Par contre, les choses resteront peut-être un peu plus sur de la découverte d'images ou sur de la recherche documentaire à propos de l'astronomie, mais pas vraiment des expérimentations comme j'ai pu les mener en cours moyen.
Alors aujourd'hui, c'est un prix professionnel de la main à la pâte que vous recevez. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce prix? Est-ce que pour vous, c'est une récompense particulière, ou est-ce que de toute façon, vous alliez faire ce projet? Donc voilà, qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce que ça ne vous apporte pas?
Bah, c'est évidemment une reconnaissance du travail qui a été fait. Bon, je ne pense pas que mon travail soit particulièrement novateur ou particulièrement original. Par contre, c'est vrai que si ce prix peut permettre justement de faire partager cette séquence et de la proposer à d'autres instituteurs qui seraient intéressés, eh bien, ma foi, le but est atteint, puisque beaucoup dans les écoles, on travaille chacun dans son coin. Alors, si on peut mutualiser le travail qui est fait à droite et à gauche, eh bien, à mon avis, tout va dans le bon sens.
Eh bien, merci Grégoire Valin. Geneviève Morgue et Marie-Christine Cotillard, bonjour.
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 Merci d'être avec nous ici à l'Institut de France. Vous recevez, comme votre collègue Grégoire Valin, le prix professionnel de la main à la pâte, prix professionnel 2006. Quel était le sujet de votre mémoire qui vous vaut ce prix aujourd'hui ici à l'Institut de France?
C'est un sujet sur la préservation de l'eau. Donc le titre plus particulièrement, peut-on éduquer les enfants à la protection de l'environnement et en particulier à celle de l'eau? Tout ça à travers la démarche scientifique.
Donc ça concernait quels élèves? Plutôt CPCE1 ou au contraire CM1, CM2?
Non, c'était plutôt des élèves de cycle 3, donc plutôt de niveau CM, CM1 ou CM2. En l'occurrence, nous avons mis notre mémoire en place dans des classes de CM2.
Alors, nos auditeurs l'auront bien compris, vous êtes deux. Donc, vous avez réalisé ce mémoire à deux. Pourquoi avoir choisi ce sujet et comment ça s'est passé et comment vous avez pu le mettre en place? Je suppose que ça vous a demandé beaucoup de travail, surtout à deux.
Oui, alors tout d'abord, concernant nos motivations, elles étaient d'ordre multiple. Tout d'abord, nous sommes toutes les deux mères de famille, donc nous nous préoccupons énormément de savoir quelle planète nous allons laisser à nos enfants. Deuxièmement, nous sommes de formation scientifique toutes les deux et nous sommes très sensibles à toutes les alertes qu'émettent les scientifiques concernant la planète maintenant. Et enfin, nous avions envie de savoir comment nous pourrions transmettre à des élèves cette envie de préserver leur environnement. Nous avons nous-mêmes choisi d'habiter dans une région protégée, dans un parc naturel, donc nous sommes très sensibles à toutes les agressions que l'environnement subit. Donc voilà. Et nous avons travaillé à deux parce que nous nous connaissons bien, nous avons à peu près le même cursus scientifique, une habitude de travail en commun. Et c'est vrai que ça a nécessité beaucoup de travail, mais je dirais pas plus dans la mesure où nous avons énormément l'habitude de travailler ensemble. Donc nous avons mis en place les séances ensemble, nous n'avons pas fait une séance l'une, une séance l'autre. Toutes les deux, nous les préparions en commun et nous les animions à deux. Donc généralement une animée principalement, et l'autre était plus en observation, notait les interventions des élèves, les remarques pertinentes, mais il pouvait arriver qu'elle intervienne également. Quand on est pris dans la classe, on ne voit pas forcément ou on n'entend pas la remarque sur laquelle on peut rebondir. À deux, c'est tout de suite beaucoup plus facile. Donc ça nous a permis d'être beaucoup plus interactifs.
Alors justement, entrons dans le vif du sujet, entrons dans votre classe, dans vos classes. Comment ça s'est passé? Quelles ont été les différentes étapes qui vous ont permis en fait de travailler avec vos élèves sur ce sujet-là, l'environnement et plus particulièrement l'eau?
Oui, donc on a fait une séquence qui s'est déroulée en 9 séances avec les élèves. Donc au départ, on avait une petite présentation en fait de l'eau, de la qualité de l'eau. Ensuite, on est vraiment rentré dans le vif du sujet avec un recueil des conceptions premières des élèves sur le circuit de l'eau dans la ville.
Vous avez peut-être eu des remarques particulières d'ailleurs, non?
Pour la plupart des enfants, l'eau, elle sort de la rivière, elle arrive à la maison et elle y repart directement. Donc, il y en a certains ont la notion d'égout, d'autres ont la notion qu'on doit peut-être la nettoyer quelque part, mais on obtient souvent des dessins assez drôles. Pour certains, ça fonctionne en boucle fermée, pour d'autres, l'usine, elle est sur pilotis avec les canalisations qui passent sous la rivière. Enfin,
très dessin animé peut-être.
Non, pas forcément très dessin animé, mais on sent qu'ils se posent des questions. Par exemple, on leur avait demandé de colorer en bleu l'eau propre, en marron l'eau sale, et alors la question c'était comment on colorie la rivière. Alors pour certains, elle était bleue à gauche, marron à droite. Pour d'autres, elle était mélangée. Pour d'autres, elle était forcément marron. Enfin, on a eu à peu près toutes les possibilités.
Alors revenons aux différentes séquences qui vous ont permis donc de travailler pendant toute une année, en fait je suppose. Hein, je suppose que ça dure pendant toute une année scolaire. Non, pas spécialement.
Non, ça ne dure pas sur une année puisqu'on l'a fait sur 9 semaines. Après avoir fait le recueil des conceptions premières sur le circuit de l'eau dans la ville, on a continué donc en travaillant plus précisément sur les étapes de circuit et en particulier sur le château d'eau avec des expériences sur le château d'eau. Donc essayer de, par des expériences, de faire monter l'eau dans les immeubles. Donc ça à l'aide de bouteilles d'eau, une représentant le château d'eau et une l'immeuble. On a travaillé également sur le nettoyage de l'eau, donc là aussi par des expériences. On a ensuite travaillé sur les consommations d'eau, donc avec l'étude de factures d'eau propres à la ville des enfants.
Ça leur parle, les factures d'eau?
Oui, ça leur parle énormément. Ils étaient très étonnés du prix de l'eau. Très, très étonnés que l'eau puisse coûter si cher.
Ce qui nous a permis d'ailleurs de leur poser la question, et à votre avis, pourquoi l'eau coûte-t-elle si cher? Donc, comme on a vu avec eux auparavant le circuit de l'eau dans la ville, ils ont pu commencer à se rendre compte. Bon, en plus, la facture est assez détaillée, donc ils voient qu'il y a une taxe sur l'assainissement. Que veut dire le mot assainissement? Donc, on voit aussi tout l'intérêt du travail sur la langue, du travail sur les mathématiques, du travail. Donc, on voit l'aspect transdisciplinaire que peut apporter les sciences. Et donc, oui, ils ont vu énormément d'intérêt à cette séance.
Alors, juste avant d'enregistrer cette petite séquence, vous nous expliquiez que parmi toutes les expériences qui étaient réalisées, il y avait l'expérience de comment assainir l'eau, comment la filtrer. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette expérience qui était assez drôle et puis en même temps qui est assez révélatrice de ce que peuvent penser les élèves de 10-11 ans à peu près?
Nous leur avions demandé la semaine d'avant de réfléchir sur le matériel qu'ils pourraient employer et de l'amener eux-mêmes. Nous en avions en réserve au cas où ils n'auraient pas eu trop d'idées, mais ils en ont eu largement assez. Donc ils sont arrivés avec des bassinoires, des bassines, des passoires de différents gabarits, des filtres à café, des boules filtres à thé, des sacs plastiques, du coton, des gants MAPA dans lesquels ils perçaient des petits trous pour faire passer l'eau. Donc certains aussi se sont dit que en passant dans des choses de plus en plus fines, ça filtrerait mieux. Donc ils ont essayé le sac plastique en se disant les trous doivent être très très fins. Ils ont été très déçus. Il y en a certains qui ont essayé de laver l'eau en mettant dedans du produit nettoyant. Alors ils trouvaient qu'elle sentait bon après. Effectivement, celle qu'on leur avait fournie était un peu croupie, donc elle sentait mauvais. Ils la secouaient beaucoup, ils récupéraient la mousse. Avec une éponge, ils pressaient. L'eau était effectivement plus claire. Il y en a certains qui ont essayé de la diluer, donc ils rajoutaient beaucoup d'eau. Effectivement, à la fin, elle est beaucoup plus claire, mais elle n'est pas plus propre. D'autres ont pensé à la faire bouillir, donc ça c'est une expérience qu'on a conduite avec la maîtresse titulaire de la classe. On ne les a pas laissés tout seuls faire bouillir de l'eau comme ça. Donc oui, beaucoup, beaucoup d'idées, beaucoup d'expériences assez amusantes, mais qui les ont toutes passionnées.
Et donc, à l'issue, vous avez préparé une exposition. Qu'est-ce que vous avez pu faire à l'issue de ces 9 séquences?
Donc, d'abord, avec les élèves, on a réalisé une charte pour essayer de les pousser. Enfin, eux-mêmes ont voulu s'engager vis-à-vis de l'eau et de la préservation de l'eau. Donc, ils se sont engagés à travers cette charte et ils ont voulu la diffuser plus largement et dans les autres classes et à leurs parents. Et donc, pour les parents, ils ont réalisé une exposition. Donc, une partie avec nous, mais une grande partie avec leur maîtresse titulaire, où ils ont ajouté beaucoup de jeux. Et donc, lors de l'exposition, les parents ont pu participer à tous ces jeux et ont pu eux-mêmes signer la charte.
Donc là, pour le coup, en sensibilisant les enfants, vous faites coup double en sensibilisant également les parents.
Bon, il est clair que la plupart du temps, si on veut toucher les parents, il faut passer par les enfants. C'est pareil pour tout ce qui est protection routière, hein, sécurité routière. Pour l'environnement, c'est pareil. Il faut passer par les enfants pour avoir une petite chance d'atteindre les parents. Et on a pu constater que ça fonctionnait très, très bien. Lors de l'exposition, les enfants prenaient leurs parents par la main, venaient leur montrer. Tu as vu combien on consomme quand on prend une douche par rapport à un bain, hein. Il faudra qu'on fasse attention. Et tu penseras bien à fermer l'eau quand tu te laves les dents, etc. On a pu entendre toutes ces réflexions des enfants à leurs parents. Et beaucoup de parents sont venus nous voir après en nous disant « je ne me rendais pas compte, on n'y pense pas, on est pris dans la vie de tous les jours, c'est très bien ce qu'ont fait nos enfants ». Donc les parents aussi eux-mêmes étaient très contents.
Et alors aujourd'hui, il me semble que ce que vous avez pu mettre en place est utilisé par d'autres collègues. C'est-à-dire que voilà, vous avez pu établir des petites fiches pour que d'autres collègues puissent faire les mêmes choses avec leurs propres élèves.
Oui, je dirais que dans ce sens-là, notre but est atteint, enfin en partie. On peut toujours faire mieux, bien sûr, parce que certains de nos collègues des groupes avec qui on était l'année dernière utilisent la séquence qu'on a faite. Et même encore, nous ont appelés cette année pour avoir ou la cassette qu'on avait employée ou plus de matériel pour les élèves.
Donc en ce sens, pour vous, la boucle est bouclée. Tout est, les générations futures sont assurées. On va pouvoir avoir un enseignement concernant l'eau et son environnement.
On espère, mais comme on le dit à la fin de notre rapport, c'est un résultat qu'on a quand même obtenu sur une période assez courte. Pour que ça puisse continuer, il faut que cet enseignement à la préservation de l'environnement continue dans les classes ultérieures. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à dire on va enseigner à nos élèves d'école primaire à préserver l'environnement et ce sera gagné. Non, il faut que ça continue dans les autres classes du primaire et puis également au collège et au lycée. Parce que si on s'arrête maintenant, ils sont tout contents. Mais qu'est-ce qu'il en restera dans 6 mois, dans 1 an ? C'est vraiment un travail de longue haleine si on veut que ça puisse fonctionner.
Merci Geneviève Morgue et Marie-Christine Cotillard. Peut-être vous vouliez rajouter quelque chose, non? Non? Eh bien, merci beaucoup. Et puis alors, bonne séance dans cette grande salle des séances de l'Institut de France pour recevoir ce fameux prix professionnel de la main à la pâte. Merci beaucoup. Au revoir.